RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. Restez bien avec nous parce qu'on va parler dans 20 minutes de ce livre que la mairie de Paris veut censurer, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Dora Mouto et Marguerite Stern, qui livrent cet ouvrage, cette enquête, seront face au GG dans 20 minutes. On va essayer de comprendre pourquoi ce livre déplaît tant à certains, et notamment à la mairie de Paris, aux associations trans. Et visiblement, il y a une volonté de faire pression pour que ce livre ne soit pas diffusé. Donc ça nous intéresse de comprendre pourquoi. On va en parler avec les deux autrices tout à l'heure vers 11h20. Mais pour l'heure, c'est le match des GG.
Nous demandons un rectificatif. Nous avons fait...
Quoi ?
Nous demandons un rectificatif du résultat.
Pourquoi ?
Parce que vous, ce n'était pas 61% pour Mehdi.
Alors, donc il y a ce match qui est en cours, ce GG, c'était match. La question est la suivante. Les patrons doivent-ils arrêter de payer au SMIC suite aux déclarations du patron de Michelin qui estime qu'aujourd'hui le SMIC n'est plus un salaire décent et d'ailleurs que dans sa boîte, aucun salarié n'est payé au SMIC. Alors, visiblement, il y a eu un petit bug sur le vote. Tout à l'heure, on donnait Mehdi gagnant, en tout cas, il est en train de mener ce match. Je vous propose qu'on découvre les vrais chiffres parce qu'effectivement, voilà, on a recompté et qu'il y avait une petite erreur.
Il a été licencié, il faut le dire
voilà,
aussi. Hein.
Licencié. Il était smicard, donc ça va.
Alors, on va regarder les vrais chiffres. Voilà, alors effectivement, pardon Mehdi, mais.
Bah alors.
On s'est trompé, visiblement, c'est 75%.
C'est pas grave, je mourrai les armes à la main.
Les patrons
avec mes convictions.
Arrêter de payer au SMIC.
On est
25%
là.
Non. Donc ça s'est inversé totalement, oui. On s'est trompé dans les chiffres. Là, mille excuses Mehdi, mille excuses
c'est
à ceux
grave,
qui nous regardent
pas grave,
et à ceux qui nous écoutent. Mais le match n'est pas terminé
non.
Et je vous propose de donner la parole à Tony qui est avec nous.
Je lance un appel
de Gironde. Bonjour Tony.
Olivier, je lance un appel solennel. Votez en masse pour gagner. Juste pour enlever le sourire narquois de.
T'as fait le coup pour les GG de l'année, tu vas pas nous faire le coup
de la fonctionnaire de Barbara Lefebvre. Juste, s'il vous plaît, pour lui enlever ce sourire narquois.
Ah, en plus, c'est du fonctionnariat bashing.
S'il vous plaît.
Tu vas perdre 90.
S'il vous plaît.
Barbara, tu as qu'à dire à voter, voter.
Non, car moi, je ne veux pas influencer les votes. Je veux que les gens votent selon leurs idées.
Voilà, sur le site RMC. Voter en masse.
Selon leur statut.
Et non selon leur statut ou leur je sais pas quoi.
Tony est avec nous, on va l'écouter. Bonjour Tony, vous nous appelez de Gironde, de Mios, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et il serait prêt à bouffer du cochon, le Mehdi, pour gagner.
Oui, toujours. Il est prêt à tout, Mehdi.
Ah, moi, pas.
Alors, vous êtes pourtant, vous êtes du côté de Barbara et Étienne et vous dites oui, il faut arrêter de payer au SMIC.
Oui, mais je suis pas du côté de. Je suis oui et non, parce que moi, je comprends Mehdi avec sa problématique de petit patron, de petite PME. Ça, je le comprends entièrement. Mais il faut bien qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas sauver avec le SMIC. On ne peut pas. Et le premier poste de dépense d'un foyer, c'est le loyer.
Bien
je ne parle pas de l'essence et de la bouffe. Mais le loyer, Mehdi, je gagne 2500 euros par mois. Pour me loger avec mes deux enfants, j'étais même prêt à prendre un T3, c'est-à-dire deux chambres et dormir dans mon cul-claque. Bon, j'ai réussi à trouver un T4. C'est là où j'habite, alors je vais dire le bassin d'Arcachon. Mais c'est une petite ville, c'est une petite ville, c'est pas Arcachon ni le Cap-Ferret, c'est une toute petite ville. C'est minimum un T4, 900 euros. Comment je fais ? L'agence, elle me demande de
vous êtes grutier. Vous gagnez combien ?
Et pourtant, grutier, c'est
vous gagnez combien par mois ?
Mais moi, je suis débutant. Je suis entre 2005 et 3000. Vous voyez ?
2005 et 3000.
Parce que c'est un boulot où on gagne bien sa vie, grutier.
Votre femme travaille ?
Non, alors je suis père au foyer avec deux enfants.
D'accord, vous êtes père au foyer, voilà. Donc vous avez un seul salaire pour voilà. Vous et vos deux enfants.
Et je vous avoue, je suis honnête, je ne paye pas d'impôts parce que je fais beaucoup de route pour aller au travail et avec les deux enfants, bon, je ne paye quasiment pas d'impôts.
D'accord.
Ce que je veux dire, c'est que dans le privé, on va me demander trois fois le montant du loyer et comme je suis juste à ça, eh ben, du coup, on va me demander des garants. Alors moi, c'est exceptionnel, j'ai plus de parents, mais j'ai plus de garants. C'est une galère, il a fallu que je chiale pour avoir un logement, vous voyez. Il a fallu que je mente et que je dise que je dors dans ma voiture pour mettre les gens, pour qu'ils aient un peu pitié. Vous voyez où on en est rendu.
Oui, c'est pas normal qu'aujourd'hui, un homme qui a 40 ans, qui gagne sa vie, qui élève ses enfants,
qui a un excellent boulot,
qui a un boulot soit obligé de quémander un logement. Ça,
c'est
dans le bassin d'Arcachon, dans une petite commune. Le problème, c'est que le bassin d'Arcachon, avec le boom du tourisme, des résidences secondaires, les prix ont vachement monté.
Je l'entends. Mais moi, je pense que c'est... en revanche, les grands groupes, ceux qui ont les reins solides et qui sont au CAC 40, je peux comprendre la démarche de donner un peu plus. Mais Mehdi, je l'entends. Mon père était un artisan et il payait mieux ses salaires que lui-même. Vous voyez, donc non, ça je l'entends, je comprends ce qu'il dit.
Ouais, mais, ça, mais nous aussi on l'entend. C'est d'ailleurs, ça a été nos premiers arguments de dire qu'on comprenait la détresse des TPE PME.
C'est pour ça
que c'est un mec comme Michelin qui s'exprime.
Mais, oui, mais en plus, Tony n'est pas, enfin je veux dire, oui. L'exemple presque de Tony, il est, c'est presque un contre-exemple. C'est-à-dire Tony, il n'est pas Spicard. Ouais. Tony, il a un bon boulot.
Moi j'ai une question à Tony.
Il gagne bien sa vie et il n'y arrive pas.
J'ai une question pour Tony. Et Tony, justement, est-ce que vous arrivez dans votre situation à mettre un peu d'épargne de côté?
C'est impossible avec deux gamins.
Alors je vous avoue que j'y arrive parce que je vis petitement.
Voilà.
Vous voyez, voilà, je suis pas.
Donc vous privez pour mettre
donc
un
vous
peu
privez
d'argent
de loisirs. Au lieu du loisir, vous allez dans l'épargne.
Alors moi, les loisirs, je vais courir. Vous voyez, je vais courir, je fais du sport.
Ça, c'est gratuit. Enfin,
en revanche, mes enfants, eux, ils manquent de rien. Et ça, c'est un point d'honneur que je n'ai, c'est tout.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Ils ont 16 et 15 ans.
D'accord, voilà.
Oui, c'est des grands.
Lui, il finit le collège bientôt. Je mets un point d'honneur à être. Voilà. Mais en revanche, bon, là, c'est notre problème. Et il y a beaucoup de demandes à la maison pour l'éducation, vous voyez. Donc, ils sont un peu en roue libre. Et je vous avoue que des fois, c'est compliqué aussi.
Oui, c'est pas évident avec des ados, deux ados d'un coup. Ouais. Bon courage à vous, Tony. Merci d'avoir appelé au 32-16. Romain est avec nous. Bonjour, Romain.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez aussi de Gironde.
Exactement, c'est ça.
Où précisément?
À côté de Langon, plus vers le sud, en Arles-sur-Touze.
D'accord. Alors, vous dites plutôt non. Vous dites, donc, vous êtes du côté de Mini Guézard. Pourquoi?
En fait, moi, tout simplement, donc, moi, j'ai travaillé au SMIC, hein, donc, je sais ce que c'est, mais comme j'ai aussi fait des études dans la chimie, notamment une licence. Et en fait, toujours vouloir augmenter le SMIC, c'est bien, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens qui font des études se retrouvent avec des différences de salaire qui ne sont plus conséquentes.
Eh oui.
Et donc, je pense, en fait, tout simplement que les gens, enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait pas d'études, qui va commencer à travailler à 18 ans, et quelqu'un qui va commencer à travailler à 22, 23 ans, en fait, déjà, il va pas cotiser pour la retraite, et en plus, c'est pour gagner 50 ou 100 euros de plus par mois, je pense que c'est pas forcément intéressant pour
eux. Il n'y a pas assez de différence entre le premier salaire et les salaires suivants, et c'est ce qu'on appelle la smicardisation de la société.
Exactement.
Je veux dire, moi, je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une licence en chimie, qui est technicien chimiste dans une boîte, encore plus dans le public, hein, il va toucher entre 1400, 1500 euros, quoi. Donc, voilà, enfin, je suis désolé, moi, à côté du SMIC, en fait, quand on fait 3 ans d'études en chimie, je trouve que c'est pas intéressant derrière.
Mais précisément, est-ce qu'il doit y avoir un rapport? Parce que là, on est un peu déconnecté, c'est-à-dire, on est un peu sur la morale. Mais est-ce que, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que l'homme, l'ouvrier ou le travailleur rapporte à la boîte? Est-ce que la boîte le paye? Parce que le problème, c'est ça. L'ingénieur, on sait ce qu'un ouvrier sur un chantier rapporte, on sait ce qu'il coûte, mais l'ingénieur dont vous me parlez ou le chimiste dont vous me parlez, est-ce qu'on peut mesurer ce que lui apporte à la boîte?
Alors bien sûr, dans les boîtes privées, ce sera plus facile parce que du coup, ça revient directement au patron. Dans les boîtes publiques, ça peut être un peu plus compliqué, mais enfin, n'importe quel chimiste, de toute façon, a des obligations de résultat. Et plus son niveau d'études va être élevé, et plus il aura des obligations de résultat. De toute façon. Donc à un moment donné, oui, bien évidemment.
Merci Romain, merci d'avoir appelé au 32-16 pour cet exemple. Et nous sommes avec Frédéric, qui est restaurateur et qui dit qu'il n'a jamais payé personne au SMIC. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Du côté d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Dans votre restaurant, vous n'avez jamais payé au SMIC?
Non, jamais. C'est impossible de vivre en Île-de-France avec le SMIC. Ou alors, il faut faire 2-3 boulots, il faut faire un job au black. Enfin,
c'est ça. Ah oui. D'ailleurs, que si vous proposez le SMIC, vous ne trouvez personne?
Bah, déjà, oui. Ça, c'est une réalité. Oui. Si on propose le SMIC, on va trouver personne. Mais je prends le cas du salaire le plus bas chez moi, c'est le plongeur. Mon plongeur, il gagne entre 1400 net et selon les mois, s'il y a une prime, 1500-1550.
Ouais, donc c'est le SMIC.
Déjà, il est déclaré.
C'est quasiment
c'est
le SMIC.
C'est
quasiment
net, c'est le SMIC. Mais
non, c'est
1400. Non, 1390.
Oui, on est pas très loin. 1398, c'est pas loin de 1400, on est près du SMIC. Ouais.
C'est SMIC. Et vos autres employés, vous les mettez bas SMIC plus heures sup ou bas SMIC plus prime. Et c'est la même chose. Mais vous faites ça comme toute personne normalement constituée qui a une société, une PME ou une TPE pour justement le coût des charges qui est exorbitant.
Oui, bien sûr. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure au standardiste, le problème, c'est que moi, à la sortie du Covid, on embauchait des gens et ainsi de suite parce qu'il y a de l'activité, ainsi de suite. Mais on s'est fait défoncer par les charges. Résultat, rentabilité mauvaise. Résultat, redressement judiciaire.
Ah bon?
Donc, carrément.
Pourquoi vous êtes fait défoncer par les charges après le Covid?
Parce que, en fait, il y a eu une revalorisation des salaires de 17% qui a été signée par nos syndicats en un mois, entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc résultat, tout le monde a eu 17% de comment ça s'appelle de d'augmentation des salaires. Alors c'est très bien. Au moins, ça fait des années que je milite pour ça, pour que les salariés en restauration.
Sauf que derrière, pour vous, c'est plus de charges à payer.
Bah bien sûr, c'est ouais. C'est proportionnel.
Et derrière, vous n'avez pas eu forcément plus de clients.
Ah bah non.
Voilà.
Et puis on va pas faire payer le steak à 40 euros, voyez.
C'est le client qui fait le salaire. Hein.
Bah oui, bah bien sûr. Donc c'est pas tenable.
Donc là, vous êtes en redressement judiciaire.
Ouais, normalement, je dois m'en sortir dans 5 mois. Là.
D'accord.
Voilà, mais résultat, on a limité
c'est
les emplois.
C'est tout le mal que je vous souhaite, monsieur. C'est tout le mal que je vous souhaite.
Le problème, non, c'est
ça le problème.
En fait, on est dans un cercle un peu vicieux. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans la restauration, il faut mieux payer pour attirer les gens parce que c'est un métier difficile et que sinon, vous avez
perdu. De main-d'œuvre.
Mais si vous payez plus la main-d'œuvre, derrière, vous payez plus de charges. Ouais, ouais. Et si vous n'avez pas plus de clients, ou alors vous augmentez les prix de
l'efficacité. On peut remplacer les gens par des robots.
Si vous augmentez le prix de vos menus, il y aura peut-être moins de clients. Donc, vous êtes un peu coincé.
Mais là-dessus, pourquoi dans les métiers en tension, on n'allège pas les charges encore plus au lieu, comme certains nous disent, s'il y a des métiers en tension, on va faire venir des gens qu'on pourra encore plus payer au lance-pierre parce qu'ils vont rien réclamer vu que
ça se fait automatiquement.
Voilà. Non, mais je considère qu'il y a des métiers où on a vraiment des pénuries d'emplois et là il faut vraiment cibler les aides et les emplois où il n'y a pas de pénurie, où il n'y a pas de problème de salaire, etc. Et ben là on charge et sur les très grosses entreprises. On charge bien les dividendes, on taxe bien les dividendes, on taxe bien la capitalisation. Mais sauf que aujourd'hui, en France, il y a une espèce soi-disant d'égalitarisme, de faux égalitarisme fiscal, en particulier qui tape les TPE-PME, où de la même façon d'ailleurs, pendant le Covid, on a arrosé tout le monde n'importe comment.
Trop.
Et ben là, c'est pareil, on taxe tout le monde n'importe comment, on fait pas une politique ciblée. Pourquoi ? Parce qu'on a des dirigeants qui n'ont pas le courage d'aller scoltiner certains lobbies de certaines professions, parce que dans ce cas-là, on préfère que tout le monde trinque plutôt que de cibler.
Et rappelons par ailleurs que les métiers souvent les plus mal payés, notamment au SMIC, sont souvent aussi des métiers très difficiles.
Et en général,
en général, par exemple, si on prend les associations d'aide à la personne, où le métier est quand même extrêmement difficile, où il faut faire des toilettes aux gens, où il faut faire etc. Puisque ce ne sont plus les infirmières qui les font, mais des associations d'aide à la personne, les gens sont au SMIC, ils doivent se déplacer avec leur voiture personnelle, et c'est des métiers extrêmement
les
difficiles.
Les métiers à utilité sociale sont mal payés.
Extrêmement mal payés.
Bah oui.
Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et en plus, je répète, tous ces métiers dont on est en train de parler, que ce soit dans la restauration, moins dans le bâtiment maintenant, mais par exemple l'aide à la personne, ce sont des métiers qui ne peuvent pas être remplacés ni par l'intelligence artificielle ni par les robots.
Alors, on va regarder le résultat final. Les patrons doivent-ils arrêter de payer au SMIC selon ce que dit d'ailleurs le patron de Michelin, qui chez lui a décidé d'offrir un salaire décent, c'est-à-dire un salaire au-dessus du SMIC. Qui a gagné ce match, Barbara Etienne ou Mehdi? Résultat final, eh bien c'est Barbara Etienne, oui à 74%, non 26%, oui. Donc
les patrons
arrêter
ensemble,
de payer
on pas
au
les
SMIC. Dans un instant,
c'est pas
le
grave.
Livre qui fait beaucoup parler, que la mairie de Paris veut censurer, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, Dora Mouto et Marguerite Stern nous rejoignent.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC. RMC Story autour de la table depuis ce matin pour débattre de l'actualité. Mehdi Guezard, qui est patron de PME, la professeure d'histoire géo Barbara Lefebvre et l'éducateur Étienne Yebig. Nous allons accueillir les deux autrices d'un livre qui est censuré, en tout cas. Il y a énormément de pression pour qu'on n'en parle pas. Alors nous, ça nous intéresse justement, c'est pour ça qu'on les a invités.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Marguerite Stern. Bonjour.
Bonjour.
Dora Mouto, bonjour. Vous avez co-signé cette enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'appelle Transmania aux éditions Magnus. L'afficheur Jean-Claude Decaux vient d'annoncer avoir retiré les affiches publicitaires du livre parce que ça a déplu à la mairie de Paris. Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a demandé à l'opérateur de retirer ses affiches car il juge votre livre transphobe et complotiste. Alors Jean-Claude Decaux s'est exécuté, bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui déplaît tant à la mairie de Paris, Dora ?
Eh bien, on dénonce une idéologie dont, en fait, ils font la promotion. Parce que le problème, c'est que la mairie de Paris finance un certain nombre d'associations transgenristes qui font, entre autres, la promotion des bloqueurs de puberté. bloqueurs de puberté qui sont absolument dangereux pour les enfants et qui ont des conséquences absolument irréversibles. Ce livre dénonce aussi la censure. Et, en fait, ils sont en train de prouver tout ce qu'on est en train de dire dans ce livre, c'est-à-dire ce phénomène de censure et de violence vis-à-vis de toute personne et de toute femme aussi qui s'oppose à l'idéologie transgenre pour de très bonnes raisons. On n'a pas très envie, notamment aux Jeux Olympiques qui arrivent, d'avoir des hommes dans les compétitions sportives de femmes, par exemple.
C'est quoi l'idéologie transgenre, Marguerite ?
Oui, justement, c'est ce qu'on nous reproche beaucoup. On nous reproche de parler d'idéologie. En fait, le livre est une démonstration, enfin, tout le livre est une démonstration du fait que c'est une idéologie, justement. La définition d'une idéologie, en fait, c'est une doctrine philosophique, politique, qui vient modifier les comportements individuels et collectifs. Et donc, voilà, c'est ce qu'on montre dans le livre. En fait, l'idéologie transgenre, elle s'est infiltrée dans absolument toutes les sphères de la société. La sphère politique, bon, là, on en a la démonstration quand même totale. Les sphères universitaires, à l'école, dans les sports, dans les médias.
C'est vrai que dans les médias, on parle d'hommes enceintes. On parle de non-binaire. On parle de vouloir changer de sexe, notamment chez les adolescents, naître dans le mauvais corps. Mais ça existe aussi. On peut naître dans le mauvais corps, non ?
Alors, naître dans le mauvais corps, c'est une contre-vérité scientifique. Enfin, c'est un abus de langage. En vérité, enfin, ça n'existe pas. On est dans le, enfin, voilà, ça n'existe pas.
C'est
comme, c'est comme changer de sexe, en fait. C'est un abus de langage. Le sexe chez l'être humain est immuable. Voilà.
Naître dans le mauvais corps, c'est une croyance. C'est comme une croyance religieuse. On a le droit de croire ce qu'on veut, mais on peut pas l'imposer à tout le monde. C'est ça le problème. Là, il se comporte comme dans un culte.
Ce qui vous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants, des adolescents qui veulent changer de sexe, entre guillemets, et que finalement, les adultes accompagnent dans cette volonté. On apprend même que il y a des expérimentations à l'hôpital. On apprend même que la Sécu peut rembourser aussi des opérations.
Oui, exactement.
Oui, sur les enfants, oui, nous, on parle d'expérimentation médicale parce que c'est les conclusions, en fait, de chercheurs, par exemple, de médecins en Suède, qui, la Suède a été un pays précurseur hein, dans les transitions de genre, on ne peut pas les accuser d'être transphobes, ça, mais maintenant, en fait, ces médecins reviennent en arrière et disent, attention, ces traitements-là qu'on donne aux enfants, et on donne ça aux enfants dans les hôpitaux français. Hein.
C'est quoi comme traitement ?
Ça doit être considéré comme de l'expérimentation médicale sur des enfants. Les traitements, c'est donc des bloqueurs de puberté.
C'est quoi un bloqueur de puberté ?
Alors, un bloqueur de puberté, c'est une molécule qui va stopper la production d'hormones sexuelles responsables de la puberté. On donne ça à des enfants qui ont des problèmes hormonaux avec une puberté précoce, mais normalement pas plus de 2 ans. Or, dans le cadre d'une transition, on donne ça aux enfants pendant 6 ans.
Donc c'est par exemple une fille qui veut devenir un garçon.
Voilà,
et ça bloque quoi alors précisément ?
Alors ça bloque le développement sexuel, donc ça fait qu'à l'adulte en fait, ces petits enfants-là deviendront des eunuques, hein, leur fonction, enfin ils seront infertiles, impossibilité d'avoir un orgasme.
D'accord.
Et puis
c'est irréversible parce qu'il
n'y a pas de consensus scientifique là-dessus.
En tout cas, ça a des conséquences importantes sur la santé.
Voilà, et je veux juste rajouter sur les conséquences très importantes sur la santé des enfants, ça détruit le squelette et puis ça empêche le développement du cerveau.
Ah bon ?
Voilà, donc
ostéoporose.
Et ça, ça a été étudié, ça ?
Bien sûr.
Ça, il y a des preuves cliniques.
Il y a un jeune garçon qui a 15 ans, qui a pris des bloqueurs de puberté pendant une partie de son adolescence. Aujourd'hui, il ne tient plus debout. Il ne tient plus debout.
Mais pourquoi on fait la promotion de tout ça si c'est dangereux,
c'est aussi grave ?
C'est pourquoi des responsables politiques financent ces associations ? Pourquoi finalement les médias sont assez complaisants, entre guillemets, certains médias avec tout ça, avec ce phénomène ?
Est-ce que c'est des lobbies ?
Oui, bien sûr, c'est un lobby. Il y a énormément d'argent injecté pour faire la promotion de la notion d'identité de genre. Il y a LGBT Funders qui a fait un rapport qui explique qu'il y a 36 millions qui ont été injectés en 2022 pour faire la promotion de l'identité de genre, les faire rentrer dans les lois. Donc il y a un certain nombre de multimilliardaires qui financent cette idéologie. Il y a John Stryker de la Stryker Corporation qui a créé une fondation qui s'appelle l'Arcus Foundation où il injecte plus de 30 millions de dollars par an pour faire la promotion de la mouvance LGBT et notamment de l'identité de genre. Et par exemple, lui, pour vous donner un exemple très concret, il va financer l'American Psychological Association qui va ensuite, en fait, expliquer aux psychologues comment il faut traiter la dysphorie de genre. Donc en fait, c'est cet argent-là a un impact très direct. Il y a aussi Jennifer Pritzker qui est héritier des hôtels Hyatt, qui est une personne qui a transitionné, qui est très proche de la famille, enfin voilà, de familles politiques comme ben voilà la famille Biden, la famille Obama, etc. Et qui enfin ils ont une véritable influence extrêmement forte. Ils financent aussi des programmes dans les universités qui font la promotion du transgenrisme. Ils financent des hôpitaux qui font transitionner les enfants. Enfin, il y a un impact financier.
Ça part dans tous les sens en fait. En fait, c'est ce qui est grave, ce que vous êtes en train de me dire, enfin ce que vous êtes en train de nous raconter, ce que vous avez écrit dans votre livre, c'est que malheureusement, il n'y a plus rien qui est surveillé, qui est contrôlé. Ça va dans tous les sens. Il n'y a aucun projet de loi qui arrête
si,
ça.
Alors si, justement, nous, on est quand même contentes parce qu'on trouve que la France réagit vite là et qu'il y a un projet de loi, justement, là, ça,
la sécu,
ça a fait un peu
sécu,
scandale.
Excusez-moi,
les sénateurs, les républicains ont proposé un projet de loi pour interdire les transitions médicales pour les enfants. Donc, ce sera examiné, on sait, dans quelques semaines.
Est-ce que la majorité va
actuellement, il n'y a rien.
On espère vraiment. Mais
actuellement, il n'y a rien.
Ça devrait arriver.
Donc, l'idée, c'est d'interdire la transition de genre pour les enfants.
Et la sécurité sociale, quel est le rôle de la sécurité sociale dans tout ça?
Eh bien, la sécurité sociale rembourse une partie. Intégralement. Les transitions aujourd'hui, bien sûr.
Bah voilà.
C'est-à-dire qu'à hauteur.
Bah voilà. Et après, quand tu tapes ton cerveau contre le sol, ils te disent
pour des mineurs. Oui. Voilà. Quand un homme transitionne pour devenir une femme, voilà. On a calculé que c'est à hauteur de 100 000 euros. Et ça, c'est la fourchette
basse. Est-ce que c'est la sécu de rembourser
mais
ça
dites pas que c'est les mineurs, parce que là, il y a une confusion. Ce sont bien pour les majeurs.
Non, attention, les mastectomies de gamines de 16 ans, ça existe en France, d'accord? C'est-à-dire qu'on retire les seins d'enfants de 16 ans. C'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale, d'accord?
Ça arrive dans nos hôpitaux publics. Alors malheureusement, on n'a pas tous les chiffres, mais par exemple, on sait qu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en 10 ans, ils ont retiré les seins à 30 gamines de plus de 16 ans. Donc, il y a en plus de ça, 18 unités hospitalières de ce même type en France.
Une mineure qui peut avoir pour X raisons des problèmes d'identité. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est coupé les seins,
la question des mineurs que vous soulevez dans votre livre, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on voit bien pour les enseignants à l'école. Les coups de boutoir de ces associations LGBT et qui passent d'abord par une première chose, et vous le soulignez très bien, c'est l'inversion du régime de vérité. C'est-à-dire qu'on renverse systématiquement. Et ça commence par le langage. Et c'est en ça que vous avez tout à fait raison. C'est typique des régimes, et je vais très loin et je le dis, c'est typique des régimes totalitaires.
Oui.
Quand vous commencez à dire qu'une femme, c'est une personne à menstruation, quand le vagin, on doit appeler ça le trou du devant, quand pénis de femme, c'est pour les femmes, les hommes qui n'ont pas encore fini leur transition, qui ont encore un sexe d'hommes, mais qui se considèrent comme une femme, il faut dire qu'elles ont un pénis de femme. D'accord? C'est même comme ça que ça a commencé, le harcèlement vous concernant.
Oui.
C'est, voilà, le lait de personne allaitante, pour parler du lait maternel. Et le fait que, bien sûr, comme je le lis dans le sidérant lexique trans du planning familial, sur la définition de sexe, il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. D'accord. Donc, en fait, il y a femme, homme, et puis il y a toute une dégradation. Alors, il y a un peu femme, un peu homme, un peu homme-femme, un peu ni homme ni femme. Je veux dire simplement, nous dire que c'est scientifiquement admis, c'est se foutre du monde. Et je veux juste vous poser une question. Vous soulignez dans votre livre le fait que les jeunes filles ados sont les plus ciblées aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu aussi l'augmentation très significative et très inquiétante du cas des personnes avec autisme Asperger?
Oui,
qui sont de plus en plus ciblés par justement le lobby LGBT.
Oui, on sait que par exemple à la clinique du genre Tavistock, qui a fermé à cause de dérives graves, il y avait 30% des jeunes patients accueillis qui étaient autistes, contre 2% dans la population générale.
Bien sûr.
Donc les jeunes autistes sont surreprésentés au sein de la population trans. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes personnes qui ont du mal à s'intégrer socialement et qui donc cherchent une communauté, parce qu'il faut le dire aussi, la communauté trans en fait,
vous dites qu'il y a même un côté un peu sectaire.
Exactement, il y a une forme d'embrigadement, c'est-à-dire
Le genre, c'est de la croyance, parce que c'est pas biologique.
L'embrigadement dans le sens où on désigne donc un ennemi commun à abattre.
Oui.
Deux sur votre plateau. Donc ça crée une forme de cohésion,
Détesté, là,
avec des systèmes de harcèlement en meute.
On vous isole de votre famille.
Vous êtes harcelée, là, vous subissez vraiment des pressions en ce moment.
Mais depuis 4 ans, on subit des pressions extrêmes. Je veux dire, on a tout perdu en disant une chose toute simple, c'est une femme est une femelle adulte humaine. Dire ça aujourd'hui est un énorme problème. Vous êtes diabolisé au maximum pour dire une simple vérité.
Alors, vous dites, nous observons que les hommes transitionnent davantage pour des raisons pathologiques internes et les femmes pour des raisons externes induites par l'entourage. Et que les femmes, par exemple, qui se déclarent soudainement trans, font cela aussi parce que c'est une façon de rejoindre une communauté.
Oui, en fait, il y a 10-20 ans, les personnes qui transitionnaient, c'était davantage des hommes de plus de 40-50 ans, voilà, qui ressentaient une vraie dysphorie de genre. Aujourd'hui, on observe qu'il y a un phénomène de contagion sociale chez les adolescentes. En fait, elles sont victimes
de mode.
Tout simplement, elles sont dans une recherche identitaire, dans une forme d'imitation. Il y a aussi ce truc qu'on veut être cool à l'école, parce qu'en fait, dès qu'on fait son coming out trans, on est célébré sur les réseaux sociaux, on est placé aussi en haut de la pyramide des oppressions, parce qu'on est trans, et donc être en haut de la pyramide
des
oppressions...
Mais dysphorie de genre, ça existe ou pas ?
Oui, ce sentiment-là existe. Le fait d'avoir l'impression de ne pas être dans le bon corps, enfin, ça fait partie de la dysmorphophobie. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec leur identité corporelle et la dysphorie de genre en fait partie. Mais la dysphorie de genre, c'est une sorte de grande ombrelle et on ne regarde pas trop ce qu'il y a derrière. Et il y a certains tabous derrière, notamment certaines paraphilies sexuelles que certains hommes ont.
C'est quoi précisément ?
Une paraphilie sexuelle, on peut dire que c'est une forme déviance sexuelle, une sexualité un peu qui diffère de la norme. Et certains hommes sont touchés par ce qu'on appelle l'autogynéphilie. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont un orgasme seulement s'ils se projettent dans l'idée qu'ils sont des femmes.
Donc en fait, il y a des fantasmes sexuels, c'est ce que vous dites d'ailleurs, même pour les femmes. Il y a des femmes qui ont des fantasmes en hommes gays. Certaines transitionnent parce qu'elles ne parviennent pas à accepter leur homosexualité, d'autres le font parce qu'elles se fantasment en hommes gays. Donc c'est pour répondre tout simplement à des fantasmes sexuels que d'ailleurs chacun peut avoir.
Fantasmes sexuels ou affectifs, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui vont peut-être trouver que les hommes gays sont plus intéressants, sensibles, beaux, etc. Et comment plaire à un homme gay ?
En devenant homme.
Ah voilà.
Étienne Libig.
Ouais, moi j'ai été très intéressé parce que c'est des débats que j'ai avec beaucoup de copines et copains qui sont profs et puis d'autres qui sont féministes parce que le mouvement féministe, il est pas univoque.
On va y revenir
sur cette question-là. Et j'ai été très intéressé par toute la partie sur les adolescents, parce que vraiment, je trouve que, comme tu l'as dit, phénomène de mode, que c'est en plus des gamins les plus fragiles, ils sont en quête d'identité, ils pourraient très bien aller vers la religion, et ils vont vers.
Certains vont parfois vers une forme de religion.
Donc là, franchement, je trouve que c'est un livre qui est à mettre entre toutes les mains à ce niveau-là, parce que je pense que les parents doivent le lire. Le livre est à lire parce que les parents doivent quand même être conscients qu'il y a quelque chose qui se joue là, dont ils doivent prendre conscience. Et à mon avis, c'est assez grave en France. Sur la question ensuite de la deuxième partie du livre, qui est plus idéologique, là, moi, j'ai trouvé que vous alliez, que moi, j'ai un peu décroché parce que j'ai trouvé que vous tiriez des conclusions généralistes de fait, parce que en pourcentage, c'est assez exceptionnel. Vous citez par exemple des mouvements dans une gay pride qui s'est passée, je sais plus où il y avait des hommes qui étaient à moitié nus devant des enfants. C'est insupportable, ça existe, mais c'est bon. Dans un pays où un enfant sur 10 est victime d'inceste, je trouve qu'il y a des combats à mener qui sont quand même un peu plus rudes que ça. Donc sur toute la partie alerte, j'ai trouvé ça génial. Sur toute la partie idéologique, j'ai trouvé que vous tiriez un peu sur la corde, quoi. Mais voilà, donc
alors,
c'est ma réponse, mon ressenti. Voilà.
C'est votre opinion. Nous, on pense que justement, ce que vous dites là, pour nous, il y a des choses qui sont pas anecdotiques en fait. Aujourd'hui, il y a quand même un grand mouvement drag queen, drag race, etc.
Oui.
C'est en télé, voilà. Bon, pourquoi pas.
Sur le service public.
Et d'ailleurs, les hommes ont le droit de s'habiller.
Et d'ailleurs,
c'est
une drag queen qui a alerté soi-disant la twittosphère LGBT et qui a fait que Monsieur Grégoire a fait enlever votre enlever votre affiche.
C'est pas anecdotique.
Surtout que le phénomène drag queen sert beaucoup de paravent pour le mouvement LGBT. Et ils viennent te dire ah non, on n'a rien à voir avec les LGBT.
Je dis pas que c'est anecdotique. Je dis que en tirer toute une suite idéologique et notamment parce que je veux bien que je veux bien qu'il y ait des lobbies, mais
le fait que la mairie de Paris,
je pense que c'est plus des lobbies idéologiques que des lobbies.
Oui, mais, l'industrie médicale, elle se fait du pognon avec les hormones.
Bien sûr, le fait que des élus demandent l'interdiction du livre via une censure publicitaire.
Mais ça,
j'aimerais en parler. Le marché de la transition hormonale, ça représente 1,6 milliard de dollars en 2022, et ça va croître de 4% jusqu'en 2030. Ce sont des cabinets d'études qui révèlent cela. Donc c'est un vrai marché, je veux dire, ils font du fric.
On va continuer d'en parler. Il y a une transsexuelle qui nous a appelé au 32-16 qui voudrait dialoguer avec vous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est votre parcours, parce que vous êtes, on aurait pu imaginer un livre écrit par deux réacs de droite, voilà, conservateurs, en disant les trans, c'est pas possible. En fait, vous êtes deux féministes, plutôt progressistes. Donc vous attendez pas forcément sur ce sujet.
Oui, on vient traditionnellement, enfin, de la gauche.
Vous êtes une ex-fémène.
Oui, voilà, moi ça fait 10 ans que je suis militante féministe. Voilà, mais en fait, justement, à partir du moment où j'ai vu que désormais les nouvelles égéries du féminisme, c'était des hommes, donc des femmes trans. Mais bon, les femmes trans sont des hommes. Enfin, c'est d'ailleurs le prérequis nécessaire pour être une femme trans, c'est quand même d'être un homme. Ça m'a quand même dérangée que finalement soit ça le sujet central du féminisme et que les violences conjugales, l'inceste, les mains au cul dans le métro. Tout ça à la porte, pourquoi pour la bite à Robert qui dit qu'il veut s'appeler Catherine, enfin non.
Moi je me suis retrouvée dans une situation où je n'ai plus pu travailler, c'est-à-dire que j'avais un compte sexo sur la sexualité féminine qui était suivi par plus de 500 000 femmes, où je parlais d'utérus, fausse couche, clitoris, etc. Et à partir du moment où j'ai dit que pour moi qu'être une femme est une réalité biologique, eh bien la communauté LGBT a pourri mon compte et a fait en sorte de faire annuler tous mes partenariats commerciaux. Je les ai tous perdus à un, à tel point ils m'ont harcelé parce qu'il fallait que je parle de pénis de femme, il fallait que je dise personne menstruée au lieu de femme, sinon allez, Dora dehors.
Alors Dora n'est pas dehors, Dora reste ici, Dora Mouto avec Marguerite Stern, et on va dialoguer avec ceux qui nous appellent au 32-16 dans un instant. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, une transsexuelle sera avec nous dans un instant.
RMC,
l'après-midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec le livre qui fait tant parler, qui est parfois censuré, notamment à Paris, par la ville de Paris. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, Dora Mouto, Marguerite Stern. Alors ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il y a de la censure, derrière il y a toujours une réaction positive, parce que j'ai vu que sur Amazon, depuis que la mairie de Paris a demandé à l'afficheur Deco de retirer les affiches publicitaires du livre, eh bien vous avez fait un bond dans les ventes, c'est assez impressionnant.
Oui, on est passé quatrième des ventes sur tous les livres vendus en France sur Amazon. Donc on va remercier, malgré lui, l'adjoint au maire. Merci.
Après les GG, vous serez numéro un.
Non mais généralement, de toute façon, la mairie de Paris, quand ils veulent faire quelque chose, c'est toujours le contraire qui se passe. C'est ce que vivent les Parisiens depuis à peu près 15 ans, ou, non, 10 ans.
Alors, nous sommes avec Béatrice qui est avec nous. Béatrice est coprésidente d'une association trans. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Vous vouliez interpeller directement Dora et Marguerite.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avoue, j'ai écouté, et puis bon, je suis évidemment toute cette actualité, et je suis vraiment consterné, mais vraiment consterné par tout ce qui a pu être dit, par la violence des propos. Et quand vous parlez d'idéologie, bon, moi ça me fait doucement sueur, parce que je me sens pas du tout, mais pas du tout idéologue. En revanche, j'allais dire, vous... Et moi, ça m'étonne parce que Marguerite Stern, j'avoue que je vous admirais à une époque où vous défendiez en effet les femmes. Notamment, vous avez lancé les collages anti-féminicides. Je trouvais ça formidable. Et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, vous avez vraiment dérivé vers l'exclusion, vers le rejet des personnes trans et principalement des femmes trans. Que je suis, et moi je ne comprends pas, parce qu'en fait, moi je m'en fous d'une idéologie, moi je ne suis pas idéologue. Tout ce que j'ai pu entendre quand vous parlez d'une doctrine philosophique, mais pas du tout. Nous, simplement, ce qu'on réclame, c'est d'abord la vérité, et justement ce que vous dites en règle générale, c'est complètement faux, et d'un autre côté, Laissez-nous vivre. On est exactement dans l'idéologie qui a existé dans les années 60-70, où on était contre, enfin, où il y avait l'homophobie. Ensuite, c'est exactement la même chose quand on était contre les IVG, contre la PMA, contre le mariage pour tous. En fait, on a l'impression qu'il y a toujours, j'allais dire, les réactionnaires, pour qualifier, j'allais dire, plutôt l'extrême droite, qui, en fait, ne supporte pas, voudrait avoir une société de clones, en fait, qu'on soit tous pareils. Et nous, qui sommes différents, on fait pas ça pour emmerder le monde.
Béatrice, pour que je comprenne bien, vous étiez un homme et maintenant vous êtes une femme, c'est ça?
J'ai toujours été une femme en moi-même.
D'accord.
Une femme avec un pénis. C'est ça?
Non, pas du tout. J'ai fait une vaginoplastie. Je suis une femme.
Point. Et vous l'avez faite quand, votre transition, Béatrice? Parce que la question aussi, c'est la question de l'âge à laquelle on transitionne, peut-être.
Eh ben moi, je l'ai faite très tardivement.
Voilà.
Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi, à votre avis, je l'ai faite tardivement?
Parce qu'on pouvait pas le faire.
Parce que ça ne se faisait pas avant, tout simplement. Bah oui. Moi, depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans, donc c'est dans les années 60, je me sens fille. Intérieurement, je me sens fille.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, se sentir fille, monsieur ou madame?
Moi, c'est madame.
D'accord.
Se sentir fille, moi, je suis incapable de l'expliquer. Je vous demanderai pourquoi
ah
bon vous êtes...
Ah bon, parce que moi, je peux vous expliquer ce que c'est qu'être, se sentir une femme, parce que j'en suis une biologiquement.
Ou en être une.
Je me sens femme depuis...
Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que d'être une femme? Concrètement, on aimerait des arguments de votre part. Être une femme, c'est quoi?
Demandez à un homme ce qu'est être un homme. Alors, il y a un être qui vont dire que c'est le virilisme.
Je peux vous faire un dictionnaire sur ça.
Non, mais c'est biologique. C'est-à-dire qu'on est un homme parce qu'on est biologiquement un homme.
Il y a une réalité matérielle. Mais alors, attendez, madame, quand vous essayez de faire une quand vous faites une vaginoplastie, ce que vous essayez d'imiter, c'est bien la biologie d'une femme, on est d'accord. C'est-à-dire que être une femme, il y a quelque chose de concret. Ouais. Quand vous faites en sorte d'avoir des faux seins et un simili-vagin, vous essayez de...
Ça n'est pas des faux seins, j'ai simplement eu un traitement hormonal qui m'a fait pousser mes seins et c'est tout, j'ai pas fait d'opération.
Oui, mais votre corps ne produit pas ces hormones naturellement, on est bien d'accord.
Et vous pouvez pas faire du lait si jamais vous êtes enceinte, vu que vous pouvez pas être enceinte.
Mais en quoi ça pose un problème?
Bon, alors en tous les cas, moi j'aimerais répondre sur le fond du propos qui est le fait que... Mais il n'y a pas de problème, c'est juste que vous n'êtes pas une femme, c'est juste ça.
Mais je suis une femme et laissez-nous vivre.
Oui, alors je vais vous répondre sur le fond de votre propos, s'il vous plaît.
Ah non, on vous laisse vivre, hein, même mesdames.
Non, mais attendez. Je veux vous répondre sur le fond du propos. Donc vous dites, voilà, il n'y a pas d'idéologie, tout ça. Bon, faut lire notre livre, vous informer, voilà. Et après, vous dites que vous êtes simplement une personne trans qui a envie de vivre comme les autres et qui a envie d'être tranquille, tout ça. Alors nous, on n'est pas du tout contre ça. On considère que les personnes trans doivent pouvoir avoir une vie normale, bien sûr, sans être discriminées, tout ça. Et d'ailleurs, dans notre livre, en fait, on donne le témoignage de deux personnes trans qui, justement, en fait, on en ras-le-bol de l'idéologie transgenre parce qu'elles considèrent que cette idéologie les stigmatise, les fait passer pour des folles, en fait.
Et donc, vous faites passer pour des folles.
Ce sont les témoignages de deux hommes transféminins, deux femmes trans qui se trouvent dans notre livre, qui s'appellent Madeleine et Alexandra, qu'on a rencontrées, qui sont des personnes, elles, tout à fait mesurées, qui disent d'ailleurs que... en fait, elles auraient bien aimé que la médecine leur propose une autre solution que l'opération chirurgicale qu'elles reconnaissent. Enfin, voilà, c'est une mutilation. Et ces personnes-là,
non, c'est
en
pas
fait.
Une mutilation. C'est
ce que nous disent en tous les cas certaines personnes qui ont transitionné qui ne sont pas d'accord avec vous.
Est indépendant. Chaque personne trans est différente. Pourquoi vous voulez tous nous rassembler? On est tous différents. On est très minoritaire d'ailleurs à faire des opérations chirurgicales.
Très très minoritaire.
On est très minoritaire.
C'est les associations trans justement qui veulent généraliser et qui ne
pas
veulent pas
tout.
Reconnaître l'individualité. Bien si, bien sûr que si, puisqu'ils parlent pour tous les trans. Excusez-moi.
Alors merci Béatrice d'avoir appelé. Béatrice, merci d'avoir appelé. Vous avez lu le livre?
Non, parce que je...
Alors, est-ce que vous voulez que je vous l'envoie?
Avec plaisir, parce que...
Voilà, je vais vous l'envoyer, parce que comme ça, vous verrez...
C'est intéressant de connaître aussi les opinions de... Mais simplement, moi, ce que je veux simplement rappeler en conclusion, c'est laissez-nous vivre, on embête.
Mais
personne.
On vous laisse vivre, il n'y a pas de problème. Vivez tranquille. On a le droit de critiquer une idéologie. On ne s'attaque pas directement à vous en tant qu'individu.
Oui.
On critique une idéologie dont vous faites la promotion avec peut-être votre association, etc. Mais toujours est-il qu'on vous attaque pas vous. Alors, vous pouvez vivre tranquille. On va pas vous insulter dans la rue. On va pas s'attaquer à vous. Vous le savez très bien. On n'attaque jamais directement des personnes trans. Ce n'est jamais arrivé.
Et ça n'arrivera pas.
De Dora Mouto, Marguerite Stern, autre témoignage, celui de Mélanie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Mélanie est une maman d'un enfant transgenre, c'est ça ?
Tout à fait.
Qui a 14 ans, qui est à côté de vous, qui écoute l'émission et qui visiblement est hors de lui, c'est ça ?
Il est un peu ému. Ouais.
Bon, alors expliquez son émotion. Et peut-être qu'il veut prendre la parole.
Il n'ose pas, on va pas
le forcer. Il s'appelle Axel, c'est ça ?
Il s'appelle Axel, alors moi je vais expliquer factuellement. Hein. Il est né Mélissandre, femme. De sexe féminin, on va dire, plutôt. Et depuis tout petit, c'est évident que c'est un garçon. Il se comporte comme un garçon. Et il a décidé de s'assumer vers l'âge de 12 ans et d'être un garçon. Et moi, maman de cet enfant-là, que j'aime plus que tout le monde, je le soutiens dans son désir. En
Donc fait. Aujourd'hui, voilà. Il se fait appeler par un prénom masculin.
Mixte.
Axel, ah, d'accord. Mais c'est pas écrit parce que Axel, c'est féminin, c'est avec
voilà.
deux L.
Voilà. Il est pas féminisé.
Est-ce qu'il a mis en place une transition ?
Non, parce que je suis un adulte responsable. C'est-à-dire que je fais c'est un processus qui est très long, la transition. On commence par voir un psychologue spécialisé. Pour avoir un rendez-vous, c'est environ un an.
Hein,
il y en a très peu. Et après, peut-être, si vraiment. Après sa psychothérapie, c'est vraiment avec l'aide d'un psychologue et d'un collège de médecins. L'aboutissement est d'être un homme. On suivra le processus.
Mais c'est quoi des comportements de garçon en
enfin, la majorité
donc, Attendez, mais Mélanie,
là, non. Il ne prend aucun médicament, non. Il ne prend rien.
Non, rien.
C'est quoi des comportements de garçon?
Mais il n'y a pas de comportement.
Si vous avez dit ça, vous avez utilisé cette expression quand il est tout petit, alors, il avait des comportements codes, de garçon.
Alors, le code sociétal d'être un homme, en fait, c'est-à-dire habillé comme un garçon, les cheveux courts, basta.
Voilà. Voilà, et en fait, nous, en tant que féministes, c'est ça qu'on dénonce aussi. C'est
pourquoi
le fait que...
Ça, c'est pas être un homme.
Bah, je vais vous expliquer. C'est le fait que, justement, il y a des stéréotypes et que être une femme, ce serait avoir un certain goût vestimentaire, exercer certaines professions, aimer le rose, tout ça. Un homme, ce serait... Donc,
attendez, laissez-moi finir.
Donc, être un homme, ce serait... Être un petit garçon, ce serait jouer aux petites voitures, tout ça.
On a un peu plus de cerveau que ça, en fait.
D'accord.
On n'est pas du tout genré dans cette famille, on n'en a rien à secouer. Contrairement à
mais
vous,
alors
on n'est pas
genré. Pourquoi est-ce que vous parlez de comportements sociétaux masculins
Qu'est-ce que
je suis en train d'expliquer ou vous y opposez, je ne comprends pas.
Et ben, là où je m'y oppose, c'est que mon enfant n'a pas envie de mettre de jupe depuis qu'il a 4 ans.
Et alors, moi j'ai jamais mis de jupe quand j'étais petit, je détestais ça.
Allez expliquer ça à ses grands-parents du côté de son papa.
Mais vous voyez ça, madame, c'est réducteur pour les femmes. En fait, c'est réducteur de dire, en fait, pour être une femme, pour être une fille, il faut mettre des jupes. C'est pas ça être une femme, madame.
Un peu plus compliqué.
J'avais dit à Nicolas au standard que moi, ce que je voulais dire, c'est que l'idéologie, quelle qu'elle soit, elle est dangereuse. Et que l'idéologie, elle est partout. Elle est et dans certaines associations.
Et votre enfant est tombé dedans?
Non, parce que mon enfant, son combat, il
le dit. Si, et vous ne le protégez pas de ça, madame.
C'est
votre responsabilité.
Je vous interdis de dire ça. Mon enfant est très intelligent. Son combat, il le mène tout seul. Et il sait qu'il va devoir se battre toute sa vie. Hein, donc je vous interdis de dire que mon enfant vous êtes des fémines, vous êtes des idéologues, vous avez eu des grands combats pour les homosexuels, pour les femmes. Je vous salue, mesdames. Par contre, là, contrairement, je n'irai pas à votre bouquin qui me paraît dégueulasse.
Vous feriez bien de le lire parce que ça pourrait sauver votre enfant, justement.
Oui, parce qu'il est en danger, mon enfant, c'est vrai. Avec moi, il est en danger, c'est vrai. Mais je lirai celui de Caroline Fourest qui me paraît un peu plus sensé, un peu plus factuel et beaucoup moins idéologue que le vôtre. Désolée. Voilà. Donc
merci Mélanie.
Bien, hein.
merci Mélanie. On voit en tout cas que le sujet est tendu. Merci.
De rien. Merci à vous.
Merci à vous, Mélanie.
Merci à vous.
Merci à vous.
L'idéologie transgenre chez Magnus. À chacun de se faire une
Exactement.
Idée en lisant ce livre et surtout pas en censurant la liberté d'expression.
Il faut le lire partout dans Paris, dans tous les arrondissements de Paris.
Et il faut le lire avant
voilà.
de parler.
Voilà. Tous les arrondissements de Paris.
Allez, messieurs, dames, merci on va maintenant beaucoup. Accueillir Estelle Denis.
Voilà. Bonjour, avec Estelle. Les chameaux, voilà. Entre vous et les chameaux qui défilent samedi.
C'est toi, Mehdi Ghezard. Estelle Denis, bonjour.
Pardon, monsieur Olivier.
Bonjour, Olivier. Merci, bonjour, Mehdi. Les GG.
Salut.
Bonjour à tous. On va parler de Gabriel Attal, là, qui vient faire son Grenelle sur la violence des jeunes. Il appelle à un vrai sursaut d'autorité pour les jeunes délinquants.
Il a mal à sa France.
Le Grenelle du sursaut.
Est-ce qu'il faudrait en arriver oui. jusqu'à supprimer l'excuse de minorité.
Oui,
c'est
oui.
la question.
Oui, oui. Bah non, on a déjà tranché.
Oui, c'est possible. Oui. Ça existe déjà dans la loi oui. pour certains faits très graves.
C'est
on
très
fait
rare.
Sauter l'excuse, mais c'est très rare.
C'est extrêmement rare. On en débat avec vous à 14h. La petite phrase du PDG de Michelin, le SMIC n'est pas un salaire décent. D'accord, pas d'accord. Et puis vous savez que les discussions continuent autour de l'utilisation des tickets resto au supermarché. C'est valable jusqu'en décembre, mais les restaurateurs, eux, ils ne veulent plus. Olivia
raison.
Grégoire, la ministre, est en train de discuter. Est-ce qu'il faut poursuivre ce dispositif mais ça va pas, non, il faut continuer le dispositif.
Mais non, le ticket restaurant, c'est pour les restaurants.
Mais on a qu'à l'appeler ticket alimentation et on garde.
Voilà, et on garde, on fait un autre ticket. Enfin, c'est extraordinaire.
C'est l'un des meilleurs progrès sur le pouvoir d'achat ces dernières années.
Mais c'est pas parce que les gens sont mal payés qu'il faut que les restaurateurs payent de l'addition.
Mais attends, les restaurateurs, ils ont déjà été aidés.
Les restaurateurs, avec
la TVA à 10%, etc.
Le ticket restaurant, c'est pas le ticket Franprix.
Et tu l'appelles le ticket bouffe.
Je sais pas où est-ce que tu manges, mais
c'est incroyable.
Je suis d'accord avec les restaurateurs.
40 balles à salade César, arrête le Fouquet, ça, Barbara.
Je mange pas la salade César.
40 balles à salade César, waouh.
Bon, enfin bref, on parlera des tickets resto à 14h. Sachez quand même que, de toute façon, 96% des Français sont d'accord avec moi et souhaitent pouvoir continuer à utiliser ces tickets au supermarché.
Eh bien, je soutiens les 4%.
Ah, super. Eh bien, à mon avis, le 4%, c'est la marge d'erreur.
Je soutiens les 4%.
Allez, à tout de suite.
Et bravo pour tes audiences.